Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis des commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. » Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'Éternel est son amour.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Alléluia. célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Acclamons la parole de Dieu.
Jésus, celui qui a été supprimé en étant suspendu sur le bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et je vous l'annonce. En réalité, c'est Pierre qui fait cette annonce, mais dans la suite de Pierre, comme un disciple, je vous annonce cette résurrection. Voyez, la foi qui est renouvelée à l'occasion du jour de Pâques, et pas simplement une affirmation que nous allons faire tout à l'heure, en redisant bien sûr le credo, mais elle est aussi communication. Il s'agit d'être témoin de cet événement, en particulier dans le monde qui en a toujours besoin, nous ne le savons que trop bien. Alors, comment est-on renouvelé dans cette foi que nous allons professer, que nous allons communiquer, nous allons tâcher de communiquer? Vous voyez que l'évangile que nous avons entendu est un évangile qui nous raconte comment les apôtres ont découvert la résurrection et comment d'ailleurs ils ont cru. Nous avons entendu le disciple que Jésus aimait, il vit, il entra dans le tombeau, il vit et il crut. Alors il y a trois personnages, il y a Marie-Madeleine, il y a Simon-Pierre, il y a Jean, mais en réalité il y a un itinéraire qui est unifié entre les trois. En particulier, tous les trois voient des choses. Il y a des signes qu'ils repèrent, des indices qu'ils relèvent. Le premier, c'est le tombeau ouvert. C'est Marie-Madeleine qui voit ça le petit matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle n'entre pas parce que le tombeau est tout sombre, il ne sert à rien de rentrer. Et puis entrer dans un tombeau, ce peut être le profaner. Elle va immédiatement courir pour annoncer ça aux disciples Simon-Pierre et à Jean, à Simon-Pierre en particulier, qui est le responsable de la communauté. C'est le premier à qui on doit annoncer la chose. Et vous avez entendu ce qu'elle dit, Marie-Madeleine, en voyant le tombeau ouvert. On a enlevé mon Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. On a enlevé le corps de Jésus, nous ne savons pas où on l'a mis. La deuxième chose que l'on voit, et c'est le disciple qui arrive le premier, qui repère cela, c'est les linges qui sont posés à plat. Plus tard, quand il va rentrer, quand Pierre sera rentré à son tour, Pierre qui entre le premier, comme je le disais, parce que c'est le responsable de la communauté, il va apercevoir aussi le sphère qui entourait la tête, qui lui est non pas posé à plat, mais roulé à sa place. Un peu étonnant, hein, quand on reprend la phrase de Marie-Madeleine qui disait, on a enlevé le Seigneur, on a enlevé son corps et nous ne savons pas où on l'a posé. C'est un peu bizarre d'avoir laissé sur place, vous voyez, et les linges et le suaire. Pour transporter un corps, c'est quand même mieux de le transporter ficelé, hein, comme un saucisson. Voilà. Ben non, on a laissé les linges, bizarrement, on a tout retiré, comme si on s'était réveillé, comme on se réveille et on fait son lit. Voilà, tout est bien rangé, le linge posé à plat et le sphère qui entourait la tête, qui est roulé à part. Tout cela, ce sont des indices sans doute étonnants, qui font réfléchir les apôtres, mais qui sont bien sûr insuffisants pour la foi. Que faut-il pour qu'il y ait la foi ? Ben non, on l'a entendu dans la dernière phrase de cet évangile. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ce qui est important, vous voyez, pour avoir la foi, c'est d'avoir la clé d'interprétation. La clé d'interprétation, c'est précisément l'Écriture. Ce qu'on appelle l'Écriture, c'est-à-dire la Bible. Alors, à l'époque de Jésus, c'est uniquement ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, vous voyez, est une clé d'interprétation suffisante pour comprendre les signes, ces indices qui sont laissés, hein, comme dans une enquête policière, il y a des indices qui sont là, des indices qui peuvent être faibles, mais bien souvent nous voyons des policiers qui arrivent à résoudre, vous voyez, les difficultés, résoudre une enquête, précisément parce qu'ils ont une clé d'interprétation. Et notre clé d'interprétation, c'est l'Écriture, c'est la Bible, c'est en particulier l'Ancien Testament. Hier, pour ceux qui ont participé à la veillée pascale, on a passé en revue tout l'Ancien Testament. Alors, on n'a pas tout lu, hein. Sinon on y serait encore et il n'y aurait pas la messe ce matin. Voilà. Mais on a lu des passages signifiants, à commencer par la création, très important la création, parce qu'elle a permis précisément au peuple d'Israël, vous voyez, d'approfondir sa foi en Dieu et d'aller jusqu'à l'affirmation que Dieu a la capacité de ressusciter d'entre les morts. À vrai dire, cette affirmation, elle est née en particulier d'une expérience qu'ils ont faite. Ils ont été affrontés à un peuple puissant qui s'appelait les Babyloniens. Ils ont perdu et ils sont partis en exil en Babylone. Mais Dieu les a fait revenir d'exil. Et déjà, ce retour d'exil a été pour eux comme une espèce de résurrection, une résurrection nationale. C'est-à-dire, le peuple d'Israël est rené, vous voyez, de cette expérience. Bien sûr, ce ne sont pas ceux qui ont perdu la guerre, ceux qui en particulier sont morts, qui sont ressuscités, mais c'est le peuple tout entier, vous voyez, les descendants en quelque sorte, qui ont continué à porter le flambeau de cette promesse que Dieu leur avait faite, je vais vous donner un pays où vous habiterez. Voilà. Mais cette résurrection nationale, vous voyez, elle a été approfondie grâce précisément à la création du monde, en particulier quand on découvre, quand on arrive à penser que Dieu est le créateur de tout, voilà, de tout ce qui existe, et qu'il a créé à partir de rien. Et le peuple d'Israël va se dire, à un moment donné dramatique de son existence à nouveau, si Dieu était capable de créer à partir de rien, il est certainement capable de créer à partir de ce qui a existé, à partir de nos vies, de nous recréer, à condition bien sûr que nous soyons disposés précisément à cette résurrection, hein, que nous ayons essayé précisément dans nos vies de le suivre. Voilà, il y a dans la Bible, vous voyez, un certain nombre d'éléments qui vont permettre au peuple d'Israël d'affirmer la résurrection, à commencer, dans la foulée, il y a les prophètes, et en particulier le prophète Ézéchiel, qui n'hésitera pas à dire « Je vais ouvrir vos tombeaux », c'est une parole de Dieu qu'il transmet au peuple d'Israël, « Je vais ouvrir vos tombeaux et vous saurez que je suis le Seigneur ». Et c'est comme ça que commence l'Évangile, par un tombeau ouvert. Voilà. L'Écriture, vous voyez, est une clé. La Bible est une clé, l'Ancien Testament est une clé pour comprendre à partir des indices, hein, que Dieu laisse dans la vie des apôtres, pour les apôtres, mais qu'il laisse aussi dans nos vies, que Jésus est ressuscité. Est-ce que ça suffit ? Peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut autre chose. Il faut peut-être précisément, vous voyez, ce que Saint Jean traduit à travers ce titre qu'il se donne, au lieu de s'appeler Saint Jean comme les autres, hein, Marie-Madeleine, Simon-Pierre, eh bien moi, Jean, j'ai couru au tombeau et je vous raconte l'expérience que j'ai faite. Au lieu de s'appeler Jean par son propre prénom, il préfère s'appeler le disciple que Jésus aimait. Alors c'est sûr que c'est très valorisant, le disciple que Jésus aimait. Mais je pense que Jésus aimait tous ses disciples et qu'il aime tous ses disciples. Mais précisément en choisissant de s'appeler ainsi, ce que Jean veut nous dire, c'est que l'amour de Jésus est capable précisément de faire en nous des choses extraordinaires, si nous nous laissons aimer par Jésus. Parce que si Jésus est ressuscité, eh bien son amour est toujours vivant, son amour est toujours puissant. Et c'est peut-être cet amour précisément que Jésus porte à son disciple, à ses disciples, qui va permettre à celui-ci, à partir d'indices qui sont extrêmement faibles d'une certaine manière, même s'ils sont étonnants, même si la raison s'y cogne, parce qu'elle n'arrive pas à trouver une raison pour expliquer précisément pourquoi les linges sont restés là, pourquoi le suaire est roulé à part, eh bien c'est peut-être cet amour de Jésus précisément qui va permettre à ce disciple, voyez, de croire, d'entrer dans la foi. Peut-être que ce que nous avons à faire aujourd'hui, voyez, c'est de nous laisser aimer par Jésus. Et on se laisse aimer par Jésus à la fois parce qu'on se tourne vers lui, mais parce qu'on se laisse aussi toucher par les actes d'amour de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Peut-être que pour un certain nombre, ça va être une course aux œufs, je ne sais pas. Voilà, ça va être une course aux joies, c'est une fête familiale. Mais même ceux qui ne vivent pas en famille peuvent être touchés par cette joie parce que nous sommes réunis ici en famille autour du Christ ressuscité. Eh bien, que cette joie nous habite, laissons-nous toucher, voyez, par les marques d'amour qui nous entourent, qui peuvent être des marques directes de Jésus ou indirectes, qui passent à travers ceux qui nous entourent. Alors, il y a autre chose, et vous l'avez entendu, alors, nous avons entendu dans la première lecture le témoignage, l'annonce que Pierre fait, alors ça se passe un peu plus tard, après la résurrection, il est à Césarée, au bord de la mer, chez un centurion, un païen, qui s'appelle Corneille, drôle de prénom, hein, pour quelqu'un, mais c'est un saint, voilà, Saint Corneille, Saint Cyprien, sont des saints que nous honorons. Alors le premier Corneille, c'est ce centurion romain qui va adhérer précisément à la foi dans le Christ ressuscité. Et nous voyons Pierre témoigner que, voilà, lui peut-être a mis un peu plus de temps à croire que son collègue Jean, hein, le disciple que Jésus aimait, il vit, il crut aussitôt dans le tombeau. Lui, il va peut-être lui falloir un petit peu de temps, hein, on le voit en train de courir avec Jean, et il court un peu moins vite que Jean, peut-être parce qu'il est chargé du poids de sa responsabilité, et peut-être aussi du poids de son péché. Hein, souvenons-nous que Pierre, il a renié Jésus, mais Jésus l'a pardonné. Voilà. Et Pierre a fait l'expérience que tous les apôtres ont faite, c'est-à-dire de manger et de boire avec lui après sa résurrection. Non seulement il est témoin de tout ce que Jésus a fait, en Galilée, dans le pays des Juifs, comme il le dit lui-même, mais témoin du fait qu'il a mangé et bu avec nous après sa résurrection. Et il est chargé par Dieu, précisément, d'annoncer que le Christ est ressuscité. Et là aussi, ça peut être un signe qui nous bouleverse. Que Pierre, vous voyez, soit aussi transformé. Pierre, je vous le rappelais, a renié, parce qu'il a eu peur de subir le même sort que Jésus, de mourir lui aussi, mourir sur une croix. Et voilà que Jésus, qu'après la résurrection, après que Jésus ait disparu, si vous préférez, Pierre est complètement retourné puisqu'il se met à annoncer, ce qui va d'ailleurs le conduire à la croix. Vous le savez que Pierre va mourir sur une croix, précisément à Rome, dans le cirque du Vatican, hein, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la basilique Saint-Pierre. Vous avez le tombeau de Pierre, c'est là que Pierre est mort. Il est mort sur une croix, en demandant d'ailleurs d'avoir la tête inversée par rapport à Jésus, d'avoir la tête en bas, parce qu'il ne se trouvait pas suffisamment digne, vous voyez, de mourir dans la même position que le Christ. Il est mort la tête en bas. Comment se fait-il qu'un homme qui a eu peur d'être attrapé par les Romains tandis que Jésus était vivant a pu ainsi témoigner de Jésus ressuscité alors que, selon toute vraisemblance, selon les Romains, Jésus était mort? S'il n'y a pas eu précisément ce renversement qui s'est opéré, si l'amour de Jésus ne l'a pas touché lui aussi, un amour toujours aussi vivant, toujours aussi puissant, capable précisément de lui permettre de passer de la vision des choses qu'il voit, des signes qu'il voit, à la foi dans le Christ ressuscité. Voilà, dans la deuxième lecture, nous avons entendu Saint Paul qui nous invite, nous aussi, à tourner notre regard vers les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce n'est pas le toit de l'Église. Hein. À la limite, c'est cette lumière qui brille en haut du cierge pascal, hein, qui nous domine. Alors regardez la lumière, hein, cette lumière qui est capable de briller dans l'obscurité et d'éclairer toutes les ténèbres. Il suffit d'une petite lumière pour que même cette église, si elle était plongée dans le noir, soit d'une certaine manière éclairée, pour qu'on puisse se diriger. Voilà, la résurrection est là, le signe est là de la résurrection du Christ. Regardez les choses en haut, c'est tourner notre regard vers le ciel. tourner vers Jésus qui siège à la droite de Dieu et qui est le juge des vivants et des morts. Voilà. C'est avoir toujours Jésus au cœur. Voilà. C'est avoir toujours Jésus au cœur de telle manière que nous puissions voir aujourd'hui les signes que Jésus met dans notre vie de sa résurrection. Parce qu'il y en a des signes de la résurrection. Ce ne sont plus le tombeau ouvert, même si on peut toujours aller à Jérusalem, encore que ce soit difficile en ce moment, et qu'il soit même difficile d'aller à ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le Saint-Tombeau, hein, mais ce n'est plus ce signe-là sur lequel nous appuyons, même si nous pouvons toujours le voir aujourd'hui. Ce ne sont plus les linges qui, bien sûr, ont été retirés hein, du tombeau, mais c'est des signes que Jésus pose dans notre vie, des transformations du cœur, autour de nous et en nous, qu'il est capable d'opérer, que son amour opère. Voilà. Laissons-nous aujourd'hui aimé par Jésus, de telle manière que notre foi en sorte renouvelée et que nous puissions, avec saint Pierre, avec les apôtres, avec tous les disciples de Jésus, être témoins du Christ ressuscité parmi nous.